J'ai choisi ce matin de vous parler de la prière et j'ai repris quelques idées que j'avais déjà partagées avec vous. Et en fait, j'ai choisi la prière parce que je me dis, je prie pas assez et ma vie, elle change pas assez. Ben, c'est le cycle infernal, hein. C'est ma vie, elle change pas assez parce que je prie pas assez et je prie pas assez parce que ma vie change pas assez et ainsi de suite. Mais ça commence là, comme contrairement à la poule et l'œuf, ça commence par la prière. La prière nous transforme, et c'est de ça dont je voudrais parler. Jésus, c'est une parabole qu'on trouve dans Luc 18, 22, adressa à ses disciples cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Cette parabole me fait penser à un voyage à Bruxelles avec maman. Et nous étions en voiture, et elle grilla un feu rouge à la barbe de la police, qui l'arrêta bien sûr. Elle descendit de la voiture, monta dans le fourgon, et elle pleurait. Elle pleurait, et je l'entendais expliquant qu'elle n'était qu'une pauvre veuve, mère de 3 enfants orphelins perdus à Bruxelles. Et le voyage s'est terminé par une escorte. En fait, elle était perdue dans Bruxelles. Et les gendarmes motards en police à moto nous ont escortés jusqu'à l'appartement de où vivaient mes grands-parents. Les disciples, eux, ne comprenaient pas toujours les paraboles de Jésus, mais celle-ci est clairement destinée à leur montrer qu'il faut prier sans se lasser. Et dans l'évangile de Luc, ce texte fait suite à un long discours de Jésus sur la fin des temps et son retour, et on verra ça tout à l'heure, en réponse à une demande des pharisiens sur l'avènement du royaume de Dieu. Et il semble que face au danger que pourra rencontrer l'Église en ces jours terribles qui s'annonçaient pour les disciples et qui s'annoncent aussi pour nous, et jusque-là, la prière persévérante n'est pas juste une option, mais une nécessité. Et il y a dans cette parabole deux personnages, un juge qui n'a aucune crainte de Dieu et qui n'a d'égard pour aucun homme, nous dit la parole, et par conséquent, il est sans conscience et sans cœur dans ses procédés. Et il y a une pauvre veuve d'autre part qui est affligée et dans ses affections les plus intimes, comme maman, lorsqu'elle s'est fait arrêter par la police, et en outre opprimée par sa partie adverse. Et la dame, cette demande de la pauvre veuve est légitime. Elle est en droit d'attendre la justice par rapport au mal qui lui est fait. Et elle est en droit d'attendre une sentence juste du juge. Et ce n'est pas une vengeance, mais sa délivrance par la justice qu'elle demande. Et dans le texte, il est marqué « elle venait ». « Elle venait », c'est un imparfait, ça veut dire qu'elle venait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle venait voir le juge qui en avait, et le texte le dit, hein, « elle me casse la tête. Elle me casse la tête, cette femme. » Et il lui fait sentence. En fait, sa persévérance dans cette histoire est le moyen de sa délivrance. Et le juge finit par céder à sa requête, non parce qu'il avait pitié d'elle, mais parce qu'elle lui cassait la tête. Contrairement aux policiers belges qui, eux, étaient animés d'un sentiment de pitié. Hein ? Oui. Mais ce juge était incapable d'avoir pitié. Et dans cette parabole, Jésus enseigne non pas par analogie, mais par contraste entre un mauvais juge et une pauvre veuve. Et sa conclusion est la suivante : à plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? En fait, ce texte pose deux questions. Pourquoi est-ce qu'il faut persévérer dans la prière ? Ou formuler autrement, pourquoi Dieu tarde-t-il à répondre aux prières, surtout quand les demandes, elles, sont légitimes, comme la guérison de quelqu'un, ou la paix dans ce monde, ou la foi pour son enfant ? Et la deuxième question, c'est la prière change-t-elle les desseins de Dieu ? On peut lire dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Moi, le Seigneur, je ne change pas. » Et on aime à penser à un Seigneur qui est immuable, qui ne change pas. Et il existe beaucoup d'autres textes qui parlent de cette immuabilité de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Pourtant, dans notre texte, Jésus nous invite à persévérer comme pour faire plier la volonté de Dieu. Et on trouve dans la Bible aussi beaucoup d'autres textes qui nous parlent de cette prière qui fait plier la volonté de Dieu. Osée, chapitre 11, verset 8, et c'est Dieu qui parle, et dit « Mon cœur est bouleversé. Toutes ensemble, mes compassions se sont émues. » Et on voit le Dieu ému devant la souffrance du peuple d'Israël, et il change d'avis. Il change ses décisions. À vrai dire, ces deux aspects de Dieu, elles sont désirables pour nous. Un Dieu à qui on peut se fier parce qu'il est immuable, mais un Dieu qui est attentif et sensible et qui peut être influencé. Mais cela pose un problème. Et peut-être que vous vous intéressez peut-être pas aux bases philosophiques, on va dire, de la prière, mais certains s'y sont penchés et les conclusions auxquelles parfois on peut aboutir va déterminer notre manière de prier, mais aussi notre persévérance dans la prière. Si on la trouve futile, à quoi ça sert que je prie de toute manière ? Dieu sait déjà de quoi j'ai besoin. À quoi ça sert que je prie puisque les choses ne changent pas autour de moi ? Je ne les vois pas changer. Origène fut un des premiers écrivains chrétiens connus pour avoir cogité sur le paradoxe qui consiste à s'adresser à un Dieu qui ne change pas. Et il dit ceci, premièrement, si Dieu sait à l'avance ce qui arrivera, et si cela doit arriver, la prière est alors vaine. Deuxièmement, si tout se déroule selon la volonté de Dieu, si sa volonté est arrêtée et que rien de ce qu'il a décidé ne peut être changé, la prière est alors vaine. Et comme beaucoup d'autres, comme Emmanuel Kant aussi, dans le calvinisme aussi, qui prennent le parti d'un Dieu qui ne change pas. À quoi sert la prière dans un monde qui est aussi prédéterminé, un monde qui ne change pas ? Et la Bible pourtant nous présente Dieu comme une personne qui est attentive à nos prières et prêt à répondre à nos prières. Et Jésus, dans sa vie, incarna le portrait de quelqu'un qui était attentionné à ses disciples, qui se demandait qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, qui cherchait à leur révéler pleinement les desseins de Dieu. Et la plus célèbre prière, le Notre Père, qui fut enseigné par Jésus à ses disciples, qui lui demandait, mais comment prier ? Parce qu'ils voyaient Jésus prier constamment. Et ils se disent, mais il est exaucé. Comment prier, Seigneur ? Et en réponse à leur demande, il souligne Jésus que Dieu connaît leurs besoins à l'avance. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Jacques Ellul, c'est un philosophe historien aussi, chrétien, qui écrit dans un livre que je vous conseille qui s'appelle L'impossible prière. Il dit: la prière relie les fragments éparpillés de la création, elle rend l'histoire possible. Alors, ce n'est pas une parole de l'Évangile, hein, mais c'est une idée qui permet de comprendre pourquoi on est tous ensemble là, qu'on prie ensemble, pourquoi on écoute la prière de nos frères et sœurs, parce qu'il y a tout à coup des fragments de l'histoire qui viennent se mettre ensemble. Et ça se met ensemble dans nos vies, ça prend réalité dans cette prière. Les grands événements de l'Ancien Testament, la famille d'Abraham, la naissance d'Isaac, l'ascension de Joseph en Égypte, l'Exode, le pèlerinage du peuple dans le désert, les victoires de Josué et du roi David, la délivrance entre les mains de la Syrie et de Babylone, la reconstruction du temple de Jérusalem, la venue du Messie, ce sont tous des événements qui eurent lieu après prière et supplication du peuple de Dieu. Prière constante et supplication constante du peuple de Dieu. Notre Père. Jésus nous invite à considérer Dieu comme notre Père. Non pas que Dieu ait besoin d'être appelé Père, mais c'est pour nous mettre dans une position de fils et de fille face à lui. Et si Dieu est amour, il doit être sensible, il doit être compatissant. Soit Dieu est un monarque distant, éloigné des détails du monde, comme le pense une de mes amies qui dit: mais la prière, ça sert à rien, Pierre. Dieu, il n'intervient pas comme ça dans la vie des hommes. Il n'écoute pas toutes les prières des gens, quand même. C'est pas possible. Ben, c'est ce Dieu-là auquel je crois, et je crois que c'est ce Dieu-là auquel vous croyez. Un Dieu qui est un père, qui connaît chacun de ses enfants. Dieu est un parent affectueux, généreux, sensible, en permanente préoccupation pour ses enfants, pour le bien de ses enfants. Et nos prières sont des demandes d'enfants à des parents pleins de sagesse. Lorsque Maëva me demande d'aller au concert de sa chanteuse préférée, Chaim, ben, je l'écoute, mais j'y prête pas beaucoup d'attention. Mais quand jour après jour, sa demande est réitérée, jour après jour, elle dit: mais papa, maman, j'aimerais bien aller au concert de Chaim. J'y prête un peu plus d'attention, je considère sa demande. Et puis elle insiste, et puis ça me semble finalement raisonnable, en accord avec Marie-Léna, et il arrive que nous décidions d'aller au concert de Chaim. Même si ce n'était pas dans nos plans. Maëva n'aime pas faire les boutiques. Je lui ai demandé la permission pour parler d'elle. Pour se choisir des vêtements. Et cela désole Marie-Léna qui aimerait bien pouvoir aller faire les boutiques avec elle, lui acheter des petits vêtements. Hein. Voilà, c'est. Ne serait-ce que pour une nouvelle paire de chaussures. Alors, dès que Maëva demande: tiens, ben, je lui aimerais bien acheter ses chaussures, ben, oui, tout de suite, on lui achète pour remplacer ses vieilles paires trouées. C'est comme ça. Et c'est un petit peu, si ça correspond à notre budget, bien sûr, mais c'est un petit peu comme ça, la prière parfois. De deux manières. On insiste, on insiste, on insiste. Est-ce que c'est raisonnable? Ou alors, on demande une fois, paf, on obtient. Bah oui, tu m'as jamais demandé un truc pareil. Évidemment que je vais te le donner. Tu me demandes de te délivrer du péché. Bah évidemment que je vais te délivrer du péché. C'est la première fois que tu me demandes ça. Il y a l'écrivain Andrew Murray qui dit ceci de la prière: elle est le pouvoir par lequel se produisent des choses qui autrement n'auraient pas lieu. Alors, ça aussi, ce n'est pas une parole de l'Évangile, mais ça nous aide à comprendre cette puissance qui nous est donnée dans la prière. Et même si ce n'est pas écrit comme ça dans les Évangiles, quand on voit dans l'action de la prière dans la Bible, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est bien une libération de puissance de Dieu. Il y a un écrivain, un philosophe aussi du XXe siècle, C.S. Lewis, dont on parle, qui est l'auteur des Contes de Narnia, qui était fasciné par les questions relatives à la prière. Et en particulier, comment Dieu pouvait écouter des hommes et leur répondre. Et il se demandait quelle différence pouvait apporter une faible prière dans l'océan inévitable du destin et de la providence. Qu'est-ce que ma prière dans tout ça ? Et il s'est posé cette question lorsqu'il devait prier pour son frère qui était à la guerre. Il s'est dit, mais ça ne sert à rien. C'est quoi ma petite prière pour protéger mon frère qui est à la guerre ? Et puis il a réfléchi là-dessus et il a utilisé pour y répondre l'argument d'un sceptique, un écrivain américain qui s'appelle Kurt Vonnegut, qui disait, je pense, c'est Kurt Vonnegut qui disait ceci, je pense qu'il est tout à fait impossible que Dieu ait recours aux conseils mal avisés et contradictoires des hommes que nous sommes pour diriger le monde. S'il est omniscient, ne sait-il pas déjà ce qu'il y a mieux à faire ? S'il est infiniment bon, ne le fera-t-il pas, que nous prions ou non ? Et Lewis va lui rétorquer ceci, que l'on peut utiliser cet argument contre n'importe quelle activité humaine. Pas seulement la prière. Ben oui, pourquoi se laver les mains ? Si Dieu veut les voir propres, elles le deviendront sans qu'on les lave. Ou alors, pourquoi s'habiller ? Ben oui, pourquoi faire quoi que ce soit ? Dieu aurait pu programmer nos corps pour qu'ils se nourrissent miraculeusement. Et puis, sans nourriture ? Ben oui. Que les études ne servent plus à rien, puisque on pourrait intégrer la connaissance dans nos cerveaux directement sans études. Et je me souviens avec Richard, durant nos études de médecine, on a... penser parfois en rêver, s'endormir sur un livre, et qu'en s'endormant dessus, il rentre dans nos têtes. Ouais, mais moi, je le soupçonne d'avoir essayé. Je suis certain que certains d'entre vous ici ont déjà essayé de dormir avec un livre, en disant peut-être que ça va rentrer. Mais Dieu a choisi une autre méthode pour gouverner le monde. Un partenariat dépendant de la contribution et des choix de l'homme. Et Blaise Pascal, qui est un autre philosophe chrétien, qui a dit ceci, « Dieu accorde à l'espèce humaine la dignité de la causalité. » Alors, la dignité de la causalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben oui, c'est de dire que on est digne des choses qui peuvent arriver dans ce monde. C'est un peu à cause de nous, parce qu'on a obéi, parce qu'on a fait. Ça donne une dignité à l'homme, ça lui donne une part à la volonté de Dieu pour ce monde. Et c'est ça que Dieu cherche à faire dans notre vie, c'est ça que Dieu cherche à faire dans l'Église quand il nous appelle le corps de Jésus-Christ. La dignité de la causalité. Il veut accomplir son œuvre avec nous, au travers de notre humanité, et pas sans nous. Alors le sceptique ne proteste pas contre, en fait, la prière, mais un sceptique, il proteste contre les règles de base de la création. Dieu a créé la matière pour qu'elle soit malléable. Il a créé des arbres pour qu'on les coupe, pour qu'on construise des maisons, pour qu'on construise des barrages pour retenir l'eau, pour que avoir des réservoirs pour qu'on fabrique de l'électricité, pour... Voilà, le monde, il a été créé ainsi, pour qu'on crée, nous aussi, avec Dieu. Dieu nous a accordé une si grande liberté dans ce monde qu'on peut même opprimer son prochain, nous rebeller contre le Créateur, et même mettre à mort son propre Fils. Et Lewis nous suggère, en fait, C.S. Lewis nous suggère d'imaginer le monde non comme un État qui est dirigé par un dictateur, mais comme, en fait, une œuvre d'art. Ou alors une pièce de théâtre, d'accord ? Et qui est en cours de création, cette pièce de théâtre. L'auteur permet au personnage, en fait, d'influencer l'œuvre et d'intégrer chacune de leurs actions au résultat final de la pièce de théâtre. Et le résultat final, on le connaît. Le résultat final, il nous est donné. c'est que ce monde va disparaître, mais qu'il y a une espérance qui est céleste pour nous. Alors dans cette perspective, Jésus dit à ses disciples, et il nous le dit à nous, « Allez vers les nations et annoncez la bonne nouvelle. » Paul parle de la folie de la prédication. Guérissez les malades, visitez les prisonniers, nourrissez les affamés, accueillez les étrangers. C'est Matthieu chapitre 25. Dieu choisit un mode d'action dans lequel les humains sont partenaires et les humains sont les individus les plus sollicités dans ce monde pour être partenaires avec Dieu. Et la prière, c'est l'instrument de la puissance de Dieu, aussi réel et naturel que tout autre pouvoir que Dieu peut utiliser, la prière. Alors pourquoi devoir persévérer comme cette pauvre veuve? Pourquoi devoir insister? Pourquoi Dieu ne répond-il pas immédiatement à la prière? Eh bien, l'histoire de cette veuve nous incite à prier comme, en fait, un démarcheur, vous savez, qui met son pied dans la porte qui se ferme. Hein? On arrive, hein, vous vendez quoi? Je vendais... Oh non, non, merci. Et le gars met son pied. Ben, c'est un petit peu ça. Ou alors un catcheur qui tient son adversaire au sol, qui prend sa tête, il ne le lâche pas. C'est comme ça que Dieu nous invite à prier. Le nom Israël, ça signifie celui qui lutte avec Dieu. Et ça fait référence bien à Jacob qui lutta avec l'ange de l'Éternel. Et il le fit, la Bible nous dit, avec persévérance, refusant de le lâcher, et il le tient par son manteau pour lui dire « Mais t'es qui? Donne-moi ton nom. Qui es-tu ?» Et cette rencontre avec Dieu, cette prière fervente, persévérante de Jacob toute la nuit, pour toujours, ça a changé sa personne. Jacob, c'est un nom qui signifie tricheur, usurpateur. Il est devenu Israël. Et cela s'est inscrit non seulement dans son nom, mais aussi dans sa chair. Il a été touché sur le côté, et depuis ce temps-là, il a boité. Et d'ailleurs, les Juifs ne mangent pas le tendon, hein, de ce tendon-là des animaux. Il a, je crois que c'est le moyen fessier qui a dû être rompu, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il boita le reste de ses jours, comme le peuple d'Israël, d'ailleurs. Le psaume 121 au verset 3 nous rappelle que, pour nous encourager à la prière en tout temps, le Dieu qui te garde ne sommeille pas. Alors, moi je prie parfois le soir et je m'endors parfois en priant. Et peut-être parce que je pense que Dieu aussi s'endort de ma prière. Mais Dieu ne s'endort pas devant nos prières. Et il est en train de nous dire là, le Dieu qui te garde ne sommeille pas, ça veut dire hausse un peu la voix et insiste. Comme Jésus invite ses disciples à le faire en parlant de la pauvre veuve. Il insiste, si tu n'es pas exaucé, insiste, demande, continue à demander. Mais pourquoi faut-il persévérer? Pourquoi cette femme syrophénicienne doit-elle insister tellement auprès de Jésus pour que sa fille soit guérie? Et elle poursuit les disciples au point de les gêner d'ailleurs. Et puis ils disent à Jésus, tu veux qu'on la fasse fuir? Pourquoi a-t-elle dû autant insister? Pourquoi Jésus-t-il tarde-t-il tant à venir au chevet de Lazare, mourant alors que Marthe et Marie l'ont fait appeler? Et il attend 3 jours. Au point que Marthe et Marie, qui étaient pleines de foi à ce moment-là, ben leur foi, elle commence à dire, mais pourquoi il vient pas? Pourquoi il vient pas? Parce que la vraie utilité de la prière, elle n'est pas tant d'obtenir ce qu'on désire que de devenir celui ou celle que l'on devrait être. La prière persévérante, elle ne cesse pas de me rapprocher de Dieu. C'est ça. Est-ce que vous priez assez pour être proche de Dieu? Parce qu'il y a des bénédictions à la clé de cette prière. Et tandis que parfois, j'épanche mon cœur devant Dieu, je me soulage, je me décharge de mon fardeau. Ça, c'est une bénédiction. Sur quelqu'un qui peut porter ce fardeau, mieux que moi. Et puis, peu à peu, en apprenant à connaître Dieu dans la prière, je découvre qu'il n'y a rien, qui n'a rien de commun avec le juge inique. Parce que bien souvent, malheureusement, on voit Dieu comme un juge inique. Il n'écoute pas nos prières. Il tarde à accomplir sa volonté. Il tarde dans ses bénédictions. Ce que j'apprends en passant du temps avec Dieu dans la prière me prépare à discerner ce qu'il veut accomplir sur la terre et le rôle que je peux avoir comme partenaire. Alors c'est pourtant difficile de persévérer dans la prière. C'est facile pour vous de prier, de se dire « bon, allez, aujourd'hui on va faire deux petites heures de prière et vous êtes là avec les frères et sœurs d'église, on va avoir deux heures de prière. » Il y en a qui font « deux heures de prière, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire ? On va s'ennuyer, je vais m'endormir. » Parce qu'on ne sait pas peut-être les bénédictions qui s'attachent à cette prière-là. C'est difficile de persévérer si on ne désire pas vraiment ce que l'on demande. Ou alors si on doute de la volonté ou de la possibilité de Dieu à l'accomplir dans nos vies. Persévérer, en fait, c'est quand on ne peut plus. Quand on n'en peut plus, c'est là qu'on dit qu'on persévère. Avant, on ne persévère pas. Avant, on prie. Persévérer, c'est quand tu as envie de t'arrêter, quand tu n'en peux plus, eh ben, tu vas un peu plus loin. Tu persévères. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples. Persévérer dans la prière, même quand on ne peut plus. Continue à prier. Henri Nouwen, un auteur chrétien aussi, a écrit que le paradoxe de la prière est qu'elle requiert des efforts importants tout en ne pouvant être reçue que comme un don. On ne saurait manipuler Dieu ou concevoir ses plans, mais sans discipline rigoureuse, on ne peut pas non plus l'accueillir. Il faut passer du temps avec son Seigneur. Et la conclusion de la parabole, elle est claire. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ? Parce que tout est une question de foi dans la prière. Plus on prie, plus la foi grandit. Et plus la foi grandit, plus on prie. C'est dans l'expérience avec notre Dieu que nous pourrons nourrir cette prière persévérante qui nous est enseignée. Il y a un rabbin qui enseignait les expériences faites avec Dieu et qui disait que elles ne peuvent jamais être planifiées ou provoquées, ces expériences avec Dieu. Et il dit ceci, ce sont des moments de grâce spontanés, presque accidentels. Et vous en avez déjà eu peut-être dans la prière des moments de grâce où tout à coup vous avez été visité par le Seigneur. Et son élève lui demanda, « Rabbin, si prendre conscience de Dieu n'est qu'accidentel, pourquoi nous donner tant de peine avec nos pratiques spirituelles ?» Et le rabbin répondit, « Pour nous approcher le plus possible de ces accidents. » Il y a une prière franciscaine qui nous incite au partenariat, et ce sera ma conclusion, une des deux conclusions que je vous ai déjà citées, mais qui est que Dieu te bénisse d'un malaise devant les réponses faciles, les demi-vérités et les relations superficielles pour que tu sois vraiment authentique. Que Dieu t'accorde la colère devant l'injustice, l'oppression et l'exploitation des gens pour que tu te battes pour la justice, la liberté et la paix. Que Dieu te fasse couler tes larmes devant ceux qui subissent la souffrance, le rejet, la faim et la guerre pour que tu tendes la main en le réconfortant et en transformant leur douleur en joie. Et que Dieu te rende assez fou pour croire que tu peux produire un changement dans le monde afin que tu réalises ce que les autres croient impossible et que tu apportes la justice et l'amour aux enfants et aux pauvres. Amen. La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani n'a pas été exaucée. Il y a certaines prières de Jésus qui n'ont pas été exaucées. Dans le jardin, il pria à trois reprises pour que cette coupe qui était son sacrifice puisse s'éloigner de lui. Et il pria dans le sang et la sueur pour que Dieu change ses plans pour lui. Mais Jésus fut quand même crucifié. Et sa prière ne s'est pas arrêtée là. Il a persévéré des heures et des heures jusqu'à ce que Dieu lui donne la paix et qu'il puisse dire « Que ta volonté soit faite ». Même si Jésus utilise cette formule pour introduire sa prière modèle « Que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre comme au ciel », ici à Gethsémani, c'est la conclusion de sa prière. Parce que dans la prière, on cherche à faire la volonté et les désirs de Dieu et que Dieu accomplisse cela sur nos vies. Que la volonté et les désirs de Dieu soient réels pour nos vies. Si ce n'est pas mon désir, Seigneur, que cela devienne mon désir. Et dans sa sagesse, Dieu répond à nos prières, parfois de manière différente de celles qu'on a envisagées. Nos prières immatures, et j'espère qu'elles ne sont pas aussi immatures que celles de gagner au loto ou d'être plus riche ou devenir plus fort ou plus beau. Mais cette prière, elle se modifie à la lumière de la présence de Dieu. Et nos demandes, elles changent. Avec la prière persévérante, nos demandes ne sont plus les mêmes. Et nos désirs sur l'existence ne sont plus les mêmes non plus. Ils deviennent ceux de notre Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour le soin que tu prends à nous écouter. Que cette prière, Seigneur, tu es là à tendre l'oreille. Tu es vraiment là, Seigneur. Je te prie pour que nous puissions rechercher ta présence plus dans chacune de nos journées, de prendre plus de temps avec toi, Seigneur, que ce soit une réalité aujourd'hui, que ce soit une réalité lundi, comme pour le reste de la semaine. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Et nous reconnaissons que tu ne veux pas accomplir ses volontés sans nous. Seigneur, nous voulons être participants, comme assemblés dans les choses que tu veux accomplir dans ce quartier, dans nos villes, dans nos familles. Montre-nous ta volonté, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.